Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast. La semaine dernière, avec Philippe Couve, nous avons commencé à nous intéresser à l'état de santé des médias dans cette crise due à la pandémie de coronavirus. Je vous propose de poursuivre cette semaine avec une économiste. Elle s'appelle Julia Cagé et en 2015, elle publiait un livre dont le titre est plus que jamais d'actualité, « Sauver les médias ».
RFI.
Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'économie à Sciences Po Paris. Vous travaillez notamment sur l'économie politique, mais aussi sur l'économie des médias. Économiquement, la situation était déjà très compliquée pour beaucoup de médias français et la crise du coronavirus est en train de faire mal, très mal, encore plus mal peut-être. Pour les journaux, par exemple, les mesures de confinement ont fait s'effondrer la vente au numéro, les recettes publicitaires ou encore les annonces légales. Y a-t-il, à votre avis, des médias qui ne vont pas survivre à cette crise ?
En tout cas, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de pays dans le monde. Si vous prenez notamment le cas des États-Unis, où vous avez eu pendant des années une presse locale, alors beaucoup plus locale qu'en France, parce que c'était au niveau des villes, voire au niveau seulement des counties, qui seraient beaucoup plus petits que nos départements français, là où en France, on a une PQR, une presse quotidienne régionale. On voit qu'aux États-Unis, on se retrouve face à des déserts médiatiques et qu'il y a déjà eu non seulement pas mal d'annonces de journaux qui réduisaient la taille de leur rédaction, mais aussi de journaux qui fermaient leurs portes. La situation est un tout petit peu différente en France où sur la PQR, au cours des dernières années, vous avez quand même eu une reconcentration du secteur, la fermeture d'un certain nombre de titres. En fait, celui qui est véritablement en danger aujourd'hui, ça serait une catastrophe d'ailleurs, en termes de pluralisme, s'il devait vraiment disparaître, c'est Paris-Normandie. Des journaux comme Ouest-France, comme Sud-Ouest, comme l'ensemble des titres du groupe Ebra ou Centre-France sont dans des situations financières très difficiles. Mais je pense qu'on les laissera pas disparaître complètement. C'est vrai que j'ai beaucoup plus peur aujourd'hui pour un titre comme Paris-Normandie. Le bilan que vous dressez est très sombre et vous n'avez pas tort en termes de recettes publicitaires. Et si tout le monde en sortait vivant avec des rédactions préservées, on pourrait presque dire que ça serait une leçon positive pour le futur. Donc il faut avoir plus de revenus d'abonnements, de ventes et moins de revenus publicitaires. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si tous ces médias vont réussir à traverser cette crise. Ensuite, ce portrait très sombre que vous dressez, il est vrai pour la presse locale. Ce qui est quand même frappant en presse nationale, c'est que certes, on a ce même effondrement des recettes publicitaires. Par contre, on a une augmentation très forte des abonnements, donc du temps consacré à lire de l'information. Et c'est ça la seule bonne nouvelle finalement de cette crise du coronavirus, c'est que c'est en train de réconcilier fondamentalement les Français et leurs médias.
Dans l'information à tout prix, un livre que vous avez co-signé en 2017 chez INA Éditions, vous soulignez et quantifiez les risques pour l'information et la démocratie associés à l'accélération de la baisse de la taille des rédactions. N'avez-vous pas peur que la crise actuelle accentue le phénomène ?
Si, moi j'ai peur qu'il n'y ait plus de modèle économique pour produire de l'information au niveau local. Il faut le dire très clairement, on a des rédactions au niveau local qui ont été très négativement affectées au cours des dernières années et ça a un impact très direct sur l'information qui est produite. Il se trouve qu'au niveau national, on a des rédactions, alors certaines ont été affaiblies, c'est le cas par exemple de Libération en France et c'est le cas aussi de tous les titres de presse hebdomadaire nationale qu'on pense à l'Express ou qu'on pense au Nouvel Observateur. Au niveau de la presse quotidienne nationale, si vous regardez des titres comme Le Figaro, Le Monde ou même Les Échos, on est quand même sur des démarches d'augmentation de taille des rédactions ou au moins de préservation de taille des rédactions. C'est le cas aussi dans des médias comme Le Guardian, Le New York Times qui sont en train aujourd'hui de réinvestir dans leurs journalistes. C'est plus le cas au niveau de la presse locale et le problème de la presse locale, c'est qu'il n'y a que des journalistes en local qui produisent ces informations locales. C'est très bête à dire comme ça, mais si vous prenez sur l'information locale, même des agences de presse, une agence de presse comme l'AFP, il y a un certain nombre d'informations locales qui remontent par les journalistes de la presse quotidienne régionale ou de la presse hebdomadaire régionale. Donc, si ces journalistes ne sont plus là pour pouvoir faire leur métier, malheureusement, on va avoir un certain nombre d'informations qui ne seront plus couvertes et c'est extrêmement problématique. Si je reprends le cas des États-Unis, l'avantage des États-Unis, c'est un grand pays où il y a eu des milliers de titres de presse locale, il y a beaucoup de variations géographiques, donc on peut commencer à étudier les conséquences concrètes de la fermeture d'un certain nombre de rédactions. Et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que là où on commence à voir des déserts médiatiques locaux. On a un plus grand nombre de cas de corruption. On a des gouvernements locaux qui sont moins efficaces, plus corrompus, en particulier parce qu'en fait, ils ne sont plus soumis finalement au contrôle du quatrième pouvoir que sont les médias. Encore une fois, tout n'est pas négatif. Si vous prenez la France, vous avez des initiatives pour essayer de faire de la presse, de l'information au niveau local. C'est par exemple le cas du pure player Mediacité qui a été créé il y a quelques années maintenant et qui est présent dans plusieurs villes, par exemple à Lille, par exemple à Lyon, à Toulouse également, je crois. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à remplacer la presse quotidienne régionale, notamment si vous regardez les écarts entre les effectifs des différentes rédactions. Et c'est vrai qu'il faut à tout prix aujourd'hui éviter la fermeture de ces médias-là. D'une certaine manière, il faut un sauvetage de l'État pour ces médias, et ça serait bien qu'on en profite au passage pour avoir des réformes positives, et en particulier modifier pour un certain nombre d'entre eux les règles de leur gouvernance et mieux garantir l'indépendance des journalistes.
On va y revenir. Fait notable, en début de crise, il y a une forte demande d'information de la part des Français. Sur la première semaine de confinement, par exemple, le trafic sur les sites de médias a bondi de plus de 110% par rapport à une semaine normale. Cela a eu un impact sur les abonnements numériques. Ils sont en très forte progression, jusqu'à quelques dizaines de milliers d'abonnés supplémentaires pour certains médias. Est-ce que cela ne reflète pas aussi qu'une partie des médias français était à la traîne dans leur transition numérique ?
Bah, c'est difficile de généraliser si vous comparez les qualités entre guillemets des sites internet de différents titres de presse quotidienne régionale en France, on voit qu'il y a énormément de variations. Mais c'est vrai que contrairement à la presse quotidienne nationale, la presse locale a beaucoup tardé pour un certain nombre de titres à ne serait-ce que créer un site internet. Ça se traduit aujourd'hui par finalement des sites d'une moins bonne qualité, un déficit d'une certaine manière d'audience numérique et puis aussi un public relativement vieillissant. Ils en paient certainement pour certains d'entre eux en partie le prix aujourd'hui, mais ils ont permis de tirer les leçons du passé et d'essayer de se moderniser aussi de ce point de vue-là.
Vous le disiez tout à l'heure, Julia Cagé, il n'y a pour l'instant pas en France de désert informationnel. Et pourtant, il a failli y en avoir un en Outre-mer, avec le quotidien France Anti, qui est présent en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Fin janvier, il a été placé en liquidation judiciaire. Et au mois de mars, il a été sauvé, si j'ose dire, par le fondateur de Free, Xavier Niel. Le groupe Nice Matin, dans le sud de la France, vient lui aussi d'être repris par la holding personnelle du même Xavier Niel. Est-ce que ces reprises vous inquiètent ? Et finalement, n'est-ce pas à l'État d'intervenir pour sauvegarder certaines entreprises de presse en péril ?
Moi, je ne pense pas que ça doit être l'État, et je ne pense pas non plus que ça doit être des milliardaires. Ça m'inquiète, et c'est la raison pour laquelle j'avais écrit en 2015 « Sauver les médias » et que je continue à travailler sur ces questions. Je ne pense pas que ça doit être l'État en tant que tel, je pense que ça doit être les citoyens. Il faut donner des moyens pour que dans le futur, vous ayez davantage de citoyens lecteurs et également de journalistes et employés actionnaires de leurs propres médias. C'est ça, pour moi, le bon modèle. Et pour que ce bon modèle se mette en place, il faut un accompagnement, notamment un accompagnement financier de la part de l'État. Mais pour des raisons d'indépendance, vous voyez très bien que le fait d'avoir un État actionnaire ou un milliardaire actionnaire, ça pose dans un cas comme dans l'autre un certain nombre de problèmes. Et là, je ne parle pas de l'audiovisuel public, hein, puisque je suis sur RFI. Pour l'audiovisuel public, on voit très bien qu'on a mis en place un certain nombre de garde-fous pour protéger l'indépendance de l'information, malgré le fait que justement ça soit un audiovisuel public. C'est le cas en France, il y a un certain nombre de pays dans lesquels l'audiovisuel public, par exemple en Italie, est beaucoup moins indépendant. Donc moi, je pense qu'il faut penser un renouvellement de la gouvernance et de la propriété des médias sur des modèles beaucoup plus démocratiques que ce qu'on voit actuellement.
Avant de poursuivre sur ces questions, Julia Cagé, j'aimerais vous proposer une séquence questions courtes, réponses courtes.
L'atelier des médias.
Je le disais en introduction, vous êtes prof à Sciences Po. De vous à moi, l'enseignement à distance, est-ce que c'est tenable sur le long terme ?
Non.
Ces temps-ci, arrivez-vous à trouver l'inspiration pour écrire ?
Oui, énormément. J'ai du temps, j'ai du calme, j'écris 12 heures par jour.
Vous arrive-t-il encore d'acheter des journaux et des magazines en papier ?
Je suis abonné au Monde, je suis abonné à Libération, donc je ne les achète plus en papier, mais je lis le PDF. Donc en fait, je lis le papier sur une tablette. Donc je suis très attaché à la mise en page, mais je n'achète plus le papier.
Une dernière question, piégeuse ou pas. Emmanuel Macron a-t-il fait quelque chose de bien pour les médias ?
Non. Il est où le piège? Vous avez trouvé quelque chose de bien? Tu m'as échappé.
RFI. Intéressons-nous maintenant au monde d'après. Cette expression est dans l'air du temps, alors que le confinement complique un peu notre capacité à nous projeter dans l'après. Franck Riester, ministre français de la Culture, a annoncé un plan de presse global, mais on attend encore le détail de la façon dont l'industrie des médias va être soutenue dans cette crise. Quelles garanties doivent accompagner un plan de relance des médias français ?
Une garantie d'indépendance, une garantie de transparence. Aujourd'hui, si vous regardez les règles qui encadrent le secteur des médias en France, vous avez quasiment rien qui garantit la transparence au niveau de l'actionnariat des médias. Énormément de médias aujourd'hui, si vous voulez savoir par qui ils sont possédés, au bout du compte, vous devez mener une enquête digne des journalistes de Mediapart. Donc ça, la première chose, si vous aidez financièrement un média, mais ça devrait même pas être une nouvelle règle, puisque la plupart des médias d'information politique et générale touchent déjà des aides à la presse. Il faut des contreparties, et je pense qu'une des contreparties doit être une contrepartie en termes de gouvernance. Deuxième contrepartie, et ça fait partie des acquis obtenus par les journalistes du Monde au cours des dernières années, et là, pour être tout à fait transparente, je suis présidente de la Société des lecteurs du Monde. Donc, de ce point de vue, je suis aussi membre du pôle d'indépendance. Au pôle d'indépendance du Monde, qui réunit les salariés, qui réunit les rédacteurs, qui réunit des lecteurs et un certain nombre d'autres acteurs, vous avez un pôle d'indépendance au Monde qui a un certain nombre de droits et qui notamment a obtenu à l'automne dernier ce qu'on appelle un droit d'agrément. Ce qui va permettre d'éviter que le journal puisse changer de main, donc en gros qu'il y ait un actionnaire extérieur qui puisse acquérir le journal, même en cas d'opposition de la part de la rédaction qui pourrait s'interroger sur des motivations de l'actionnaire. Donc il y a un droit d'agrément, ce qui donne un droit de regard aujourd'hui à ce pôle d'indépendance du Monde en cas de changement de l'actionnaire majoritaire. Ça me paraît essentiel. Ça devrait être aussi mis en place dans d'autres médias. On a vu une demande en ce sens de la part de la rédaction de Libération qui n'a vraiment pas reçu d'écho de la part des actionnaires. Donc, un, transparence sur l'actionnariat. Deux, un certain nombre de garanties en termes d'indépendance. Donc, par exemple, quelque chose qui pourrait être sur le modèle du droit d'agrément. Et puis, trois, ça c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée. Je ne pense pas que l'information soit un bien comme un autre. Pour moi, l'information est un bien public. C'est pour ça que je défends depuis Sauver les médias ce que j'ai appelé la société de médias à but non lucratif. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas l'information, qu'il n'y a pas d'activité commerciale. Ça veut dire que quand vous gagnez de l'argent avec de l'information, cet argent, vous le réinvestissez dans les médias, vous le réinvestissez dans la production d'une information de qualité. Je pense que si aujourd'hui, vous avez un soutien massif public aux médias, il faudra au moins pour les 3 ou 5 prochaines années que les médias qui soient aidés aujourd'hui s'engagent à réinvestir leurs profits dans l'entreprise et à ne pas verser de dividendes aux actionnaires.
Et avec l'idée d'aller au maximum dans les territoires, de miser sur l'accessibilité de l'information ?
En termes de presse d'information politique et générale à but non lucratif et de voir l'information comme un bien public, on est confronté à une difficulté. La difficulté, c'est que si l'information est un bien public, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait vouloir, c'est que cette information soit disponible gratuitement au plus grand nombre. Et c'est d'une certaine manière ce qui s'est passé avec le passage au numérique. On a fini par donner l'information à consommer gratuitement. Qu'est-ce que ça a été la conséquence de ça? C'est que les gens ont arrêté de payer pour l'information, ce qui, d'une part, a entraîné une crise économique pour les médias, puis d'autre part, je pense, une crise de confiance, parce qu'on ne peut pas fondamentalement confiance à quelque chose qui est entièrement gratuit. Et tout le problème aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre, d'une certaine manière, entre le fait que l'information, elle a un coût, il faut payer pour la produire, et moi je pense que c'est quand même mieux que ce coût il soit pris en charge en partie par les citoyens qui consomment cette information que par des milliardaires qui seraient prêts à s'acheter un outil d'influence. Ensuite, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens d'accéder aujourd'hui à l'information. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Une possibilité, ça serait, ça c'est une intervention de l'État, d'offrir à chaque citoyen la possibilité d'avoir un abonnement à un média de son choix. Ça pourrait être un média au niveau local. Ensuite, il ne faut pas oublier, encore une fois, l'importance de l'information de service public, de la télévision publique, de la radio publique, qui doit être aussi une information locale et pas seulement nationale, qui est aussi une façon pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'abonner à des médias de s'informer gratuitement avec de l'information de qualité.
Julia Cagé, vous parlez des médias publics et il y a une réforme de l'audiovisuel public français qui est toujours en préparation. Elle prévoit la création d'une holding, une société mère, rassemblant notamment France Télévisions, Radio France et France Média Monde, dont fait partie RFI. Franck Riester a annoncé il y a quelques jours que le calendrier serait discuté avec le Parlement. Il a indiqué, je cite, que le projet de loi sera évidemment réexaminé, tout en précisant que les objectifs principaux restaient, je cite, encore pertinent. Julia Cagé, que pensez-vous de cette réforme ?
Vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait une bonne chose qu'avait fait Macron par rapport aux médias. J'aurais dit que ça aurait été de mettre en pause cette réforme. Mais malheureusement, elle risque de revenir sur le tapis. Non, pour être tout à fait sérieuse, cette réforme, elle pose un certain nombre de problèmes. Elle pose notamment un certain nombre de problèmes en termes d'indépendance de l'audiovisuel public pour le futur. L'audiovisuel public, on sait très bien les pays où ça marche et les pays où ça ne marche pas en termes d'indépendance, et on sait très bien l'importance des règles de gouvernance et des règles de financement pour garantir l'indépendance de l'audiovisuel public. En France, une des raisons qui font qu'aujourd'hui on a un audiovisuel public de qualité, c'est non seulement le travail des journalistes, mais c'est aussi le fait qu'on a des règles de financement de cet audiovisuel public à travers ce qu'on appelle des COM, donc des contrats d'orientation et de moyens, qui sont des financements de long terme, c'est des financements sur 5 ans. Ça a quoi comme intérêt des financements sur 5 ans ? C'est que c'est des financements qui normalement sont complètement décorrélés du jeu politique. Vous engagez aujourd'hui, voilà, vous signez un COM, vous avez 5 ans de financement, et si vous avez un changement de majorité, un changement de pouvoir politique, ça ne doit pas affecter ces financements. Ça disparaît avec la réforme de l'audiovisuel public, d'une part. Donc, un certain nombre de personnes disent, oui, de toute façon, ces COM n'ont jamais été respectés. Ça, c'est problématique. Il faudrait dire, faisons en sorte qu'ils soient respectés dans le futur. Là, on les fait carrément disparaître. Ensuite, ce qu'on met en place avec cette holding, c'est une gouvernance telle que la personne qui sera à la tête de cette holding organisera la répartition des financements à l'intérieur de la holding entre les différents groupes, donc entre Radio France, France Télévisions,
France Média Monde
qui inclut dedans, donc RFI, France 24, également l'INA qui est concernée. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, ça veut dire que la personne qui sera à la tête de la holding aura potentiellement un pouvoir financier pour sanctionner telle ou telle entité en cas, on va dire, de désaccord en termes de couverture. Moi, je crois fondamentalement que les journalistes eux-mêmes savent se battre pour leur indépendance. Bon, et je pense pas du tout que demain, vous allez avoir un coup de fil à un journaliste pour lui dire d'arrêter d'enquêter sur tel ou tel sujet. Par contre, si vous coupez la ressource d'un média, vous pouvez lui couper les moyens d'enquêter. Vous avez aujourd'hui à Radio France une cellule d'investigation. Si demain vous diminuez extrêmement fortement les ressources de Radio France, vous pouvez mettre à mal les capacités de la cellule d'investigation. Et ça donne, cette holding donne cette possibilité-là finalement à la personne qui sera à la tête de la holding. Le dernier problème étant, mais de ce point de vue-là, le système actuel était déjà loin d'être parfait, la question de la gouvernance de la holding et notamment des conditions, des modalités de nomination de son président. Donc il y a un certain nombre de problèmes avec cette réforme-là. On parle souvent d'une BBC à la française. Pour le coup, on est loin des garanties d'indépendance qu'on a avec la BBC.
J'aimerais aussi qu'on parle des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et consorts, notamment sur la question des droits voisins. Depuis le 9 avril dernier, Google a 3 mois pour négocier avec les éditeurs et les agences de presse la rémunération de la reprise d'extraits de leur contenu. Les médias et les autorités françaises et européennes doivent-ils être davantage agressifs face à ce que certains n'hésitent pas à qualifier de pillage de contenu ?
Oui, et surtout, il faut arrêter de laisser chaque pays mener le combat individuellement. C'était l'avantage d'ailleurs de cette réforme des droits voisins, qui est imparfaite, mais qui a un mérite d'être fait au niveau européen. En fait, si vous regardez l'historique de la relation entre les éditeurs et Google, on voit qu'il y a une expérience, entre guillemets, en Espagne, où les éditeurs espagnols avaient demandé à avoir leur contenu rémunéré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été désindexés par Google, leur trafic s'est effondré, et du coup, en fait, ils ont dû redemander à Google de les indexer et renoncer à toute rémunération. Il y a eu la même chose en Allemagne, parce qu'en fait, le marché allemand, le marché espagnol, pris individuellement, ce sont de tout petits marchés, finalement, par rapport au chiffre d'affaires de Google, et on pouvait se dire qu'au moins, avec cette réforme européenne des droits voisins, on aurait tout le marché européen finalement dans la balance et que ça pouvait changer le rapport de force. Sauf que cette réforme, elle a été mise en place au niveau européen, mais on laisse à chaque pays la possibilité de la transformer en droit national. La France est le premier pays qui l'a fait, et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec Google qui décide de désindexer le contenu français. Alors, pas exactement, ils vont juste mettre un titre, plus rien, alors qu'avant, il y avait au moins un snippet, une petite image, et finalement, ça va conduire à une réduction du trafic. Et finalement, Google fait avec les Français aujourd'hui ce qu'il a fait avant avec les Allemands et les Espagnols. C'est, bah, écoutez, vous voulez pas, enfin, vous nous réclamez de l'argent, nous, on vous paiera pas, mais si vous n'êtes pas content, c'est pas grave pour nous. Vous bénéficierez plus du trafic qui provient de Google News, ce qui est un véritable chantage. On sait très bien que ce chantage va conduire au final, s'il est mené à bout, à asphyxier les médias français qui reviendront vers Google en s'asseyant sur toute rémunération, sachant que cette rémunération leur est justement due. Donc je pense qu'aujourd'hui, les États, collectivement, ensemble, au niveau européen, sur cette question-là, il y aurait dû avoir une transcription simultanée de la directive des droits voisins dans tous les droits nationaux, et que collectivement, ils rentrent dans le bras de fer avec Google, parce que vraiment, ça me semble insupportable. On parle de Google, on pourrait parler de Facebook aussi, hein, de voir la manière dont ces plateformes, qui tirent une grande partie de leurs revenus de contenu qu'elles ne produisent pas, qu'elles ne paient pas, qu'elles n'aident pas à produire, et qui asphyxient à côté tous les éditeurs qui, eux, essaient de tenir à bout de bras des rédactions.
On l'a dit en début d'émission, le moment est économiquement très compliqué pour les médias. Si demain vous étiez en mesure de créer un média, que feriez-vous ?
Moi, je ferais une campagne de levée de fonds participative. Donc, je ferais une campagne de crowdfunding. Je ferais appel aussi aux journalistes et j'essaierais de créer un média qui, dès le départ, soit un média à but non lucratif. Et qui, donc, en fait, sous forme d'association loi de 1901 ou sous forme de fonds de dotation si c'était possible, qui dès le départ embarque ses lecteurs, ses salariés, ses journalistes en faisant les actionnaires principaux du média. Sachant qu'actionnaire ici, c'est au sens de membre, hein, parce que ce sera du tout lucratif, donc il ne s'agit pas d'en tirer des dividendes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut innover. En ce qui concerne la gouvernance des médias, c'est ça aussi la meilleure manière de renouer un lien de confiance avec les lecteurs. Ensuite, le problème,
c'est innover en temps de crise, c'est très compliqué quand même.
Bah, il y a le problème d'innover en temps de crise, et puis l'autre problème aujourd'hui, c'est qu'on voit bien même les nouveaux médias qui ont été lancés, qui sont des succès. Si on prend par exemple Mediapart, au cours des 10-15 dernières années, bientôt faire 15 ans, pas encore, mais depuis que ce site en ligne a été lancé, c'est un site qui a su gagner une réputation, qui a gagné une véritable audience, un grand nombre d'abonnés, et qui a aussi gagné, pour le coup, en termes de paris économiques, hein, puisque c'est un site d'information qui est rentable, et en même temps, ce site n'a toujours pas aujourd'hui 50 journalistes, parce que vous ne pouvez pas créer de manière ad hoc une nouvelle rédaction. C'est ça, finalement, le plus triste, on va dire, en termes d'innovation médiatique. Donc, en fait, non, si on me donnait véritablement la possibilité aujourd'hui, je pense que j'essaierais plutôt d'innover avec un média existant plutôt que de créer un média à partir de rien.
Il y a quelques jours, vous étiez l'invité de Lorraine Bastide dans le podcast La Poudre. Et la progressiste que vous êtes reconnaissait s'être rendu compte sur le tard qu'il était important de conserver la pluralité sur le monde. Cela passe, je vous cite, par « donner une chance à toutes les idéologies, notamment dans les médias, faire que tout le monde ait l'espace et le droit de s'exprimer ».
Alors, ben, c'est deux questions différentes. Le fait que tout le monde a le droit de s'exprimer, heureusement, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours pensé. Je suis pour la liberté d'expression. Par contre, bon, moi, j'ai jamais caché plutôt de gauche. Je l'assume comme intellectuel quand je prends position dans le débat public. Et en même temps, c'est vrai que je m'aperçois régulièrement, maintenant j'essaie de m'auto-censurer, que dans les critiques finalement de certaines réformes qui sont mises en œuvre, j'oublie parfois de me dire qu'il peut y avoir une légitimité aussi dans le point de vue opposé. Et je pense que, en fait, ça, je me l'applique à moi-même, parce que j'ai vu très fortement dans le débat public et politique de ces dernières années, ça commence vraiment à me faire peur. Par exemple, cette nouvelle volonté que l'on voit aujourd'hui de cliver entièrement le débat public entre, d'un côté, ceux qui se qualifient de progressistes et de l'autre, ceux que l'on qualifie de populistes. En fait, on voit que ça empêche toute discussion et que ça empêche fondamentalement toute délibération. Et du coup, moi, je pense qu'il faut reposer les conditions d'un débat politique et d'un débat public, qui soit un débat politique et public apaisé, et que ça suppose justement de donner une chance à absolument à toutes les idéologies. Ce que, et vous voyez, là, tout de suite, je suis en train de me dire que peut-être que tout à l'heure, j'aurais dû vous dire, dans votre question piège, qu'est-ce que Macron a fait de positif pour les médias, j'aurais dû essayer de trouver une partie de réforme qui a été positive. Parce que on peut, par exemple, discuter de la légitimité de fusionner les moyens de la radio et de la télévision publique, sachant qu'aujourd'hui, on consomme de l'information différemment. Donc, il y a, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui peut être positif dans la réforme de l'audiovisuel. Même si, sur la gouvernance, là, je suis plus critique. Voilà, je pense qu'il faut réussir à apaiser le débat public, parce qu'en fait, sinon, on va dans le mur, et on va dans le mur d'un côté comme dans l'autre. Et ça me semble vraiment frappant, si vous voyez aujourd'hui la gestion de la crise du coronavirus. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la gestion de la crise du coronavirus, c'est que d'une part, on a un gouvernement qui ne reconnaît pas ces erreurs là où sans doute il le devrait, mais en même temps vous avez une opposition qui veut pas donner de chance à ce gouvernement, et du coup finalement à un moment qui devrait être un moment d'une certaine manière apolitique où toutes les énergies devraient se mettre ensemble pour essayer de résoudre la crise, on se retrouve encore une fois dans un paysage qui est un paysage ultra clivant, alors même que sur le coronavirus, je pense que personne ne peut affirmer qu'il aurait mieux fait. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi apaiser au niveau des clivages. Ça ne veut vraiment pas dire que je suis pas du tout partisane du en même temps. Je pense qu'on peut avoir différents points de vue sur le monde, la manière de faire fonctionner l'économie, etc. Mais que ces débats, ces points de vue, il faut leur donner une chance de débattre, de délibérer pour essayer de trouver une sorte de consensus finalement démocratique, plutôt que d'être toujours dans la dénonciation et dans la critique virulente.
Avez-vous un mot de conclusion peut-être sur le rôle et la place des médias dans le monde d'après ?
Ça sera toujours aussi important que dans le monde d'avant, mais j'espère juste qu'ils vont se porter mieux. On voit en ces temps de coronavirus, à quel point l'information est demeure essentielle. Et encore une fois, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on voit l'augmentation en moyenne du nombre d'abonnements numériques en ligne, du trafic sur les différents sites Internet. Ça se voit aussi à la télévision, dont les audiences augmentent, ça se voit à la radio, dont les audiences augmentent. Donc on voit qu'en temps de crise, les gens ont besoin de s'informer. En même temps, on voit qu'il y a encore un rapport problématique de méfiance avec l'information. On voit encore trop de diffusion de fausses informations. La recherche, finalement, de voilà où bien s'informer, comment bien s'informer. Pour les médias, comme pour beaucoup d'autres secteurs d'activité, ça va être l'occasion d'essayer de prendre un peu de recul sur ce qui marche et ce qui marche pas, donc il faut espérer que ça soit une opportunité, mais pour les médias comme pour d'autres secteurs d'activité, avant de penser à comment les réformer après la crise, essayons de faire en sorte qu'ils ne s'effondrent pas du fait de cette crise.
Merci Julia Cagé, je rappelle que vous êtes notamment l'autrice du Prix de la démocratie paru en 2018 chez Fayard et de Sauver les médias paru au Seuil en 2015. À bientôt.
À bientôt, merci.
C'est ainsi que s'achève cette émission. Si vous l'avez attrapée au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI et en podcast, donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.